Mon nom, c'est Pierre Lacomte et je suis docteur en droit belge et docteur en sciences économiques de l'UCL. Et j'étais le chef de cabinet du vice-gouverneur qui était chargé de l'application de la loi du 29 mars 62 sur l'urbanisme, qui était une loi faite par les promoteurs pour les promoteurs, dont cette expérience a été très précieuse quand j'ai été recruté par le patron de l'Université de Louvain, le professeur Watrin, pour l'aider à faire le contraire de ce que faisait la loi de 62, c'est-à-dire transformer une campagne en une ville. On peut dire que l'affaire de Louvain a commencé vers 62, en même temps que cette loi de 62, parce que le recteur de la KUL, de Zomer, disait en fait, on serait beaucoup plus à l'aise s'il n'y avait pas les francophones. Peu de gens savent à quel point l'origine du Baden-Buiten était tout simplement le cas de l'université de Gand, où dans les années 30, on a arrêté l'université francophone et on a dit à partir de maintenant, c'est une université flamande. Et les francophones doivent ou bien se débrouiller ou partir. Et voilà, donc ça c'est donc la véritable origine, donc déjà ancienne. Alors petit à petit, ça s'est aggravé. Et les francophones n'y ont pas beaucoup aidé parce qu'il y avait l'élite des professeurs francophones qui ignoraient un petit peu la population locale et ça créait beaucoup de rancœur également. Et donc c'est ainsi que petit à petit, elle est le Baden-Buiten qui s'est un peu cristallisé vers les années 1965-66. Alors il y a eu toutes sortes de discussions et à ce moment-là, petit à petit, les négociations ont amené à ce qu'on appelle la décision du transfert et l'université francophone a été obligée de quitter Louvain, mais dans l'idée du gouvernement, c'était bien à Bruxelles qu'elle devait aller, pas en Wallonie. Pourquoi ? Parce qu'un bourgmestre très actif, le baron Fallon, bourgmestre de Bolivie-Saint-Lambert, qui était un amoureux de l'université, avait déjà préparé 40 hectares dont il avait pu obtenir l'acquisition par la commune. Et ces 40 hectares étaient entièrement infrastructurés. Et il dit, avec ça, ils peuvent tout de suite s'installer à Bruxelles. Or, 40 hectares, c'est trois fois le sol Bosch. Donc, c'était plus que toute l'université de Bruxelles. Et le refus de ce cadeau a entraîné beaucoup de conséquences. La chute du gouvernement en 1968 a été la conséquence d'un malentendu entre les Flamands et les francophones sur le véritable objectif de Louvain. Et donc c'est comme ça qu'a été déclenché ce qui a été le processus dont je peux vous parler maintenant. À ce moment-là, j'avais été recruté par M. Botrin pour voir comment on pouvait s'installer en Wallonie, parce que lui avait toujours, dès le début, été favorable à une installation en Wallonie. Mais la Wallonie ne voulait pas de l'université. Les membres socialistes du gouvernement ne voulaient pas qu'il y ait une université catholique. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est que les communes n'étaient pas non plus disposées. Je prends le cas Namur. La ville de Wavre ne voulait pas non plus de l'UCL. Et finalement, aucune commune wallonne n'a voulu accueillir l'université. Et encore moins lui accorder les hectares nécessaires pour construire. Et finalement, c'est le jeune bourgmestre d'Ottigny. Il a dit, nous allons faire de cette commune de 3800 habitants une cité d'avenir universitaire. Le bourgmestre du Monceau, il voulait une cité d'avenir universitaire, mais pas au centre de sa commune, parce qu'on était au lendemain des événements de mai 68 en France. Il a dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des bagarres avec les étudiants dans ma commune. Et donc, on va les mettre à 5 km du centre, loin, à la frontière avec Wavre, et il faut trouver des gens qui soient prêts à vendre. Or, il a 5 personnes de sa famille ou des amis proches qui possédaient 900 hectares à l'endroit où est actuellement Louvain-la-Neuve et qui étaient désireux de les vendre parce que, à cause de la loi sur le bail à ferme, les propriétaires terriens n'étaient pas tellement heureux d'avoir un bail obligatoire de 81 ans, donc 3 fois 27, pour les agriculteurs sur place. Et donc, ça s'est vendu très facilement, à un prix très bas, quelque chose comme 30 francs belges de l'époque, le mètre carré. Et donc, l'université s'est donc retrouvée propriétaire de un peu moins de 900 hectares, mais avec un handicap terrible, c'est qu'il fallait trouver une solution avec ces agriculteurs qui tous avaient un droit de rester là pendant très longtemps. Et donc là, il y a eu toute une négociation dont je me suis occupé, mais qui était avec le Boerenbond. Tous ces agriculteurs wallons étaient affiliés en fait au Boerenbond flamand, mais ça s'appelle les guildes wallonnes du Boerenbond. Et ils ont alors négocié. Et heureusement, le président de ce Boerenbond était un catholique, ami de l'université, qui a beaucoup aidé à convaincre les agriculteurs d'accepter ce qu'on appelle un chapeau. Un chapeau, c'est-à-dire un droit de compensation pour le fait de devoir quitter. Et comme ce chapeau était intéressant, il n'y a finalement eu aucune réticence. Ils ont tous accepté. Et donc, on a résolu, ça j'allais dire, le problème très aigu qu'on a partout dans le monde, qui sont d'exproprier des gens qui sont là depuis longtemps.
Très concrètement, qu'est-ce qui se trouve sur ce terrain ?
Très bonne question. L'université possédant le terrain a voulu donc faire un plan directeur. Alors le professeur Watrin, un jour entendu faire une conférence, Victor Grün, un architecte américain, qui était un des inventeurs de la notion de shopping center. Il a convaincu le professeur Watrin de lui confier un contrat par lequel il devenait l'urbaniste en chef pour construire là un campus qui devait, dans son esprit, être une ville nouvelle. Et il a fait un plan qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un shopping center, mais avec des tours dans lesquelles il y avait notamment les logements pour étudiants. Quand cette maquette est arrivée, il y a eu une ruée dans les brancards de toute la collectivité. On veut qu'on refasse Louvain, mais on ne veut pas un shopping center à l'américaine. Alors, le professeur Watrin, toujours très intelligent, s'est dit, on va faire un plan maison. Or, il avait dans ses amis le professeur Lemaire, professeur à la KUL, francophone, mais professeur à la KUL. Il a dit, il faut faire une ville à l'image du béguinage de Louvain, c'est-à-dire une ville ancienne, mais avec une architecture contemporaine. Il ne s'agissait pas d'aller reprendre des architectes qui auraient copié le style de Louvain. D'ailleurs, il n'y a aucune réminiscence de la ville de Louvain quand vous vous promenez à Louvain-la-Neuve. Donc, le plan est très proche de l'ancien plan de Leuven, mais il n'y a aucune réminiscence de l'architecture. Au contraire, et ça, c'était également une idée auquel le groupe Urbanisme Architecture a réagi. Je connaissais à fond tous les retours de la loi du 29 mars 1962, qui était destinée à permettre aux promoteurs de transformer Bruxelles à leur image, avec la tour de la Monnaie, la tour Philips, la gare du Nord. Tout ça, c'était les idées du gouvernement Van den Boeylans. Et évidemment, c'était l'inverse que voulait l'université. Et donc j'étais à ce moment-là, en quelque sorte, le monsieur urbaniste, juriste urbaniste. Il fallait trouver des gens qui allaient pouvoir aider à faire les plans des quartiers. Et là, il a eu une idée également géniale, le professeur Jean-Pierre Blondel, qui était le directeur de la Cambre. Il a dit, mais j'ai tous ces étudiants, donc si je quitte l'ULB pour venir à Louvain, je vais amener avec moi toute une série d'assistants les meilleurs, pour vous aider à faire les plans. Et donc, en octobre 1968, l'université a officiellement désigné le maire Blondel et moi comme étant l'équipe de direction du groupe Urbanisme Architecture de l'UCL, qui a donc été invité à faire les plans de la nouvelle ville et à faire une ville nouvelle, mais la plus diversifiée possible, donc l'inverse du plan directeur de l'ULB. Le plan directeur de l'ULB avait été fait selon le concours classique des universités françaises, c'est-à-dire un architecte avec son bureau qui est nommé pour faire le plan directeur, plus 10% de l'architecture. Donc M. Masquelier, un architecte parisien, a donc fait le campus de l'ULB, l'UCL au contraire. Le maire et moi, nous ne voulions pas de concours. Comme nous connaissions tous d'excellents architectes, on s'est dit, mais on va plutôt prendre ceux qu'on connaît et avec lesquels on sait qu'on a de bons architectes, plutôt que de faire un concours et d'attendre le hasard d'un jury quelconque. Et le meilleur architecte, à notre avis, de l'époque, c'était André Jacquemin. André Jacquemin, qui était un architecte brutaliste, ça veut dire que c'était un architecte tout à fait d'avant-garde, en béton sculpté. Il avait fait les restaurants universitaires de l'Université de Liège. Ce n'était pas tout à fait notre goût. Mais en discutant avec lui, on est arrivé à un compromis tout à fait acceptable, c'est-à-dire ce toit incliné qui rappelle les granges anciennes de Wallonie, mais en même temps, quelque chose de très moderne. Et donc, c'est un véritable bâtiment iconique. Et probablement que dans Louvain-la-Neuve, ce bâtiment qui a aujourd'hui 50 ans, et toute cette place autour, qui sont vraiment extraordinaires et qui sont un plaisir de s'y trouver, va rester.
Donc là, Pierre Lacomte, vous parlez de la Bibliothèque des Sciences, qui se trouve Place des Sciences à Louvain-la-Neuve, qui a été transformée en musée, elle. Ça, c'est l'un des tout premiers bâtiments de la ville.
72. L'idée que nous avions, c'était de faire, dès le début, quelque chose de multifonctionnel. L'université n'ayant pas d'argent, le seul endroit sur ces 900 hectares purement agricoles, c'était là où la Nationale 4 Bruxelles-Namur traversait ce terrain. Et donc, on est parti de cette Nationale 4 où il y avait l'eau, gaz, électricité, tout ce qu'on voulait. Et on a fait un chemin linéaire, pas des quartiers, une ligne où on partait de la Nationale 4 et où il y avait les premiers bâtiments universitaires. Donc le plan directeur a été approuvé par l'université en 1970, et en 1972, il devait y avoir un premier groupe de facultés qui quittait Louvain et qui allait s'installer à Louvain-la-Neuve. Et donc le groupe Urbanisme Architecture, constitué en octobre 1968, a dû immédiatement se mettre au travail, et travailler à toute vitesse, avec M. Jacquemin essentiellement, et d'autres architectes autour de lui, qui ont fait ce premier plan directeur de Louvain-la-Neuve. Donc on a fait, à ce moment-là, un premier quartier avec cette bibliothèque, avec une place en bois, avec un parking en dessous pour les voitures, et avec les premiers des bâtiments, restaurants universitaires, des logements d'étudiants, tout un ensemble de choses qui se réalisaient déjà en 72 et qui montraient la volonté de l'université de faire quelque chose où il y avait aussi de l'animation la nuit. Dès 72, on avait donc quelque chose de multifonctionnel. Et au fur et à mesure que les facultés arrivaient, les professeurs étaient très contents d'avoir des logements qui les attendaient sur place, même si l'environnement n'était pas du tout à leur goût. C'était normal, ils étaient un peu dans la boue, comme on dit. Et puis, cette ligne qui partait de la Nationale 4, il est très important pour moi, le développement linéaire. Pourquoi ? Parce qu'on fait une première phase, et puis, immédiatement après, on fait la suivante, mais pas n'importe où, dans une certaine direction, pour éviter que les chantiers des bâtiments nouveaux d'interférer avec les bâtiments qui viennent d'être achevés. D'où l'idée, pour moi, évidente, c'est que le développement d'un ensemble urbain quelconque nouveau, il ne faut pas être architecte pour trouver ça, c'est d'avoir une continuité le long d'un axe préétabli. À Louvain, on a un début de centre, qui est donc cette première phase, qui s'est ensuite poursuivie, parce qu'entre-temps, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, c'est que la SNCB a trouvé un budget pour faire cette voie de 5 km avec une partie en souterrain pour relier la gare actuelle d'Ottigny vers le campus de Louvain-la-Neuve. Et cette partie en souterrain a été également un miracle parce que, comme on devait déplacer beaucoup de terrain à cause de ce tunnel, on avait un certain jeu pour faire un sol artificiel. Et c'est ce qui s'est passé. Si on veut une ville piétonne, il faut que les voitures puissent aller quelque part. Et donc, il faut les mettre en souterrain, et évidemment en conjonction avec la gare. Et donc, il y a tout ce centre de Louvain-la-Neuve, qui se trouve bien dans tous les manuels, qui a été le point de départ d'une ville purement piétonne. Donc, comme la demande de logement commençait à augmenter, on a continué la rue des Ballons, on a fait une petite place, la place des Ballons, et puis l'idée du plan linéaire, c'est pas de faire une ligne, c'est de faire une succession de petites places et placettes et de lieux de communication. L'idée, c'est que pour que ça prenne, il faut au contraire de l'Université de Lille, par exemple, les étudiants de Lille, en général, habitent ailleurs dans la région de Lille, et puis ils se retrouvent dans un lieu où ils vont parquer leur voiture, suivre leur cours, et puis partir. Et donc on avait tous les ans un ingrédient pour quelque chose qui ne pouvait pas être très attractif. Donc toute la philosophie de Louvain-la-Neuve était de recréer l'université ancienne, c'est-à-dire un lieu de savoir, un lieu de convivialité, un lieu de rencontre et un lieu de créativité entre personnes de disciplines différentes. Et donc à Louvain-la-Neuve, on a un maximum de chances de rencontrer des gens qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, qui sont un ferment d'esprit latéral. De Bono, un auteur anglais, a fait un livre qui s'appelle « Lateral thinking », c'est-à-dire voir des relations que les autres ne voyaient pas immédiatement. Et donc Louvain-la-Neuve est un ensemble de « lateral thinking ».
Dès le début, vous et vos collègues de ce plan directeur, vous pensez à une ville piétonne. Pourquoi vous êtes parti sur cette idée-là et comment est-ce que ça s'est réalisé concrètement ?
On était dans les années 60, à l'âge de l'efflorescence de l'automobile. Donc on n'avait absolument rien contre l'automobile. Mais on savait très bien que la ville piétonne est de loin la moins chère en infrastructure et également la plus favorable à une créativité de ceux qui la fréquentent. Et d'ailleurs, vous le voyez dans toutes les villes anciennes, que ce soit Bologne en Italie ou les villes universitaires anglaises, vous avez toujours des rues étroites où les gens se rencontrent et pas des lieux où on va d'un parking à un autre.
Au début de Louvain-la-Neuve, il y a toute une série d'architectes qui vont contribuer à développer toute une série de bâtiments. Comment est-ce que tout ça s'est coordonné entre différentes personnalités, différentes conceptions de l'architecture et la cohérence que l'on connaît ?
Le groupe Urbanisme Architecture a donc nommé tous les architectes et on se réunissait une fois par semaine pour voir l'état des travaux. Et donc, ça permettait d'avoir déjà une certaine cohérence à ce niveau-là. Ces architectes ont déjà une cohérence du fait qu'on les connaissait tous. C'était tous des gens du milieu architectural belge. Alors, il y en avait certains qui avaient des idées à eux. Par exemple, Charles Van den Hove de Liège était un architecte qui aurait voulu mettre de la préfabrication dans les bâtiments d'une des facultés. Ça ne nous plaisait pas beaucoup, puisque c'était contraire à notre esprit. Et puis, on a un peu discuté. Et puis, finalement, ça s'est arrangé. Et donc, ce bâtiment, c'est un bâtiment préfabriqué, mais ça ne se voit pas tellement. C'était toujours une coordination informelle avec des architectes indépendants et surtout pas les gagnants d'un concours. Parce que si vous faites un concours d'architecture, vous êtes coincé. Parce que le gagnant du concours a des droits et on ne peut pas changer ce qu'il a voulu.
J'aimerais que vous nous parliez du LAC et de ses fonctions.
Donc c'est une question tout à fait appropriée parce qu'elle fait également partie du casse-tête financier. Pourquoi ? Parce que quand on dit un ensemble dense, on pense à un égouttage. Ces bâtiments nouveaux sont un élément qui affecte la pensée au sujet de la ville. Et donc, dans le cas de Louvain-la-Neuve, on allait donc faire un égouttage vers la station d'épuration de Basse-Vavre. Et puis, l'université n'ayant pas d'argent, beaucoup de professeurs de sciences ont fait du travail bénévole pour l'UCL. Et notamment un certain professeur Paslek, un très brillant professeur de la faculté des ingénieurs, qui a présenté un plan d'égouttage. Et alors on a discuté, très gentiment, on est arrivé à un égout de 50 cm. À condition que cet égout ne contienne que l'eau sale et que l'eau de pluie elle soit dans un bassin d'orage. Mais ce bassin d'orage, il n'y a rien qui vous oblige à avoir un bassin d'orage en béton comme à la place Flagey. Mais vous pouvez très bien avoir un bassin que l'on aménage en lac d'agrément. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, comme c'est le point le plus bas du site, on venait du point le plus haut. Donc, on a tout cet égouttage double. L'eau propre, elle, allait vers le lac et l'eau sale allait par l'égout de 50 cm jusqu'à la Dyle, à Bassoivre. Donc, la logique du lac et la logique de l'égouttage et la logique du parc industriel sont faites en une seule pensée. On fait des liens entre des choses où, à première vue, il n'y a pas de lien.
Pierre Lacomte, nous n'avons pas encore parlé des habitants. Quel est le profil des premiers habitants de la ville? J'aimerais que vous nous parliez de cette association des habitants qui a eu un rôle important aussi au début.
Les premiers habitants de Louvain-la-Neuve, ce sont les étudiants et les professeurs des facultés de sciences. Ils sont venus et ils ont immédiatement dit « Oui, nous, on veut bien être les cobayes, mais il faut que nous ayons notre mot à dire. » Et donc, c'est comme ça que, donc, dès le début de 72, il y a une association des habitants de Louvain-la-Neuve, dans lequel des professeurs, un certain professeur Lousberg, par exemple, ont été extrêmement actifs et ont été une sorte de leader des habitants. Ils émettaient ses vœux vis-à-vis de l'université, qui était le propriétaire terrien, et la commune, avant d'avoir le permis de bâtir, qui était toujours, comme il se doit, fait par la commune. Il existe une loi de 1824, donc de la période hollandaise, toujours en vigueur. Et donc cette loi était une loi qui permettait aux propriétaires de louer pour y construire. C'est ce qu'on appelle l'emphytéose. Ces baux à long terme permettent de construire de manière avantageuse parce que le propriétaire reste propriétaire du terrain pour lesquels il reçoit une redevance, et puis le locataire du terrain, l'amphithéote, lui construit tout ce qu'il est permis de construire par contrat. Et c'est ça qui est arrivé à Louvain-la-Neuve. Tout Louvain-la-Neuve est construit sur base de baux à long terme, tout simplement parce que la loi du 24 juillet 1969, interdit à l'UCL de vendre les terrains. Donc, oui. Les habitants étaient donc non seulement des habitants, mais des amphithéotes. Donc, ils avaient des relations contractuelles et ils étaient encore plus désireux d'avoir une marge de liberté dans la discussion.
Les habitants sont tous, au début, liés à l'université ou bien il y a déjà des habitants qui n'ont rien à voir
avec ça ? Bien entendu. Théoriquement, ils doivent être liés à l'université, mais c'est très facile à tourner. Il suffit de dire qu'ils appartiennent à l'association des habitants de Louvain-la-Neuve, quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une grande majorité des gens n'ont rien à voir avec l'université. Au contraire, la ville piétonne, ça a le don d'attirer les habitants, et surtout les personnes âgées. Et donc, énormément d'occupants de Louvain-la-Neuve sont des personnes âgées, parce qu'ils aiment retrouver l'ambiance universitaire, ils aiment les activités intellectuelles, le calme d'une ville piétonne.
Ces dernières années, Pierre Lacomte, on parle beaucoup de durabilité dans le cadre de l'architecture des bâtiments. Fin des années 60, début des années 70, c'était sans doute moins le cas.
Bon, c'est une idée notamment dont Jean-Pierre Blondel était très attaché. Il faut qu'il y ait un vocabulaire de design qui fasse qu'il n'y ait pas 36 matériaux. On s'est concentré sur un matériau qui est la brique. C'est la brique de Mandelin. Donc, tout ce que vous avez en brique vient du même endroit. On n'a pas des briques roses, des briques rouges et des briques jaunes. Déjà, ça, c'est un élément unificateur et qui est aussi moins cher, parce qu'on a pris pratiquement toute la production de cette briqueterie. Et puis, il y avait le béton. Le béton, c'était le matériau immanquable. Et au fur et à mesure du temps qui passe, l'aspect de durabilité est devenu plus important parce qu'on a vu les inconvénients du manque de durabilité et parce que, d'une manière ou d'une autre, les gens ont souhaité mettre l'accent sur la durabilité et notamment l'économie d'énergie. Un bâtiment dont les murs sont trop minces, C'est un inconvénient dont on se rend compte aujourd'hui parce que le coût de l'énergie a augmenté. Donc il y a toutes sortes de bonnes raisons qui font que l'aspect durabilité est devenu plus important et tous les architectes s'y sont adaptés.
Vous parliez d'un terrain limité de 900 hectares au début.
Dont on voulait n'utiliser que 400 hectares. Pourquoi 400 hectares ? Parce que c'est la dimension de toutes les villes anciennes. La ville de Bologne, la ville de Florence, toutes ces villes sont pratiquement sur la distance, ce qu'on appelle aujourd'hui la ville du quart d'heure. Une ville où on a, sur un rayon de 500-600 mètres, toutes les fonctions urbaines, et puis entourées soit de remparts, comme au Moyen-Âge, soit plus tard de boulevards. Si vous regardez Brown et Odenberg, tous les gens qui ont fait des traités sur les villes, toujours vous voyez la même chose, un périmètre, une dimension de l'ordre de 350 à 400 mètres carrés. Et donc ça, c'est la dimension, disons, idéale pour Louvain-la-Neuve. Et on avait mis la gare, justement, au milieu, parce qu'à ce moment-là, vous avez véritablement la ville du quart d'heure. Si vous arrivez à Louvain, à la gare, vous pouvez arriver à la Grande Place, au bâtiment Vinci, au musée Berger, tout ça en moins d'un quart d'heure. Et donc, vous avez vraiment, véritablement, la ville du quart d'heure. Donc, elle est déjà réalisée depuis 72.
Il y a des délégations qui viennent de l'étranger pour visiter cette ville. Quels sont les avis des visiteurs étrangers ?
J'ai moi-même reçu, il y a quelques mois, une visite de l'Université fédérale suisse de Zurich, avec des professeurs éminents. Et ils sont arrivés avec leurs étudiants. Quand ils sont venus, ils ont dit, mais c'est incroyable. On est là un lundi soir, en hiver, et il y a du monde. Comment ça se fait ? Et puis, plus on avançait, plus on voyait, mais c'est rempli de monde ici. Nous, à Zurich, on a essayé 36 fois, ça n'a jamais marché. Alors, comment est-ce que vous avez fait ? Alors, je leur ai raconté la même chose qu'à vous. Il y a une certaine manière de penser la ville qui est totalement différente de la discipline de l'architecte, qui est plutôt la discipline de la sociologie, en quelque sorte. Nous avons toujours pensé comme ça. Une certaine manière de penser la ville avant de la construire.